jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbault, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est poétesse. 7 recueils d'elle ont déjà été publiés depuis 2015. Des fourmis, sa mère, de l'huile solaire, ses filles, la naissance de Vénus du peintre Cabanel, son nombril, le point du mari. Ses poèmes s'ancrent dans le corps, la sexualité et l'amour, partant à chaque fois d'images qui l'ont marquée. Cette fois-ci, dans son 8e et dernier recueil, elle erre sur des sites porno. Autant d'images marquantes, mais qui ne vont pas sans ambivalence. Que peut avoir de poétique la pornographie? Quel poème tiré de YouPorn et Pornhub?
Bonjour Rim Battal.
Bonjour Nicolas Herbault.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
XXC, c'est le titre de votre recueil paru aux éditions du Castor Astral. Alors que peut avoir de poétique la pornographie, mais plus précisément des errances, des visites de sites porno?
Alors, je pense que tout est poétique, déjà. Ça dépend du regard qu'on pose sur les choses et comment on s'en empare pour les déplier et en faire poème en passant par la langue. Moi, j'ai commencé à écrire sur la pornographie autour de 2017, quand j'ai remarqué que à chaque fois que je me mettais à l'ouvrage pour écrire, il y a toujours eu ce moment où je commence à procrastiner en allant sur des sites porno.
Ah oui, donc vous faites ça quand vous procrastinez.
Oui, voilà, c'est ça. Et vraiment, c'est une procrastination qui était liée à l'écriture. Donc à un moment, ça m'a paru assez naturel de commencer à creuser ça et essayer de comprendre pourquoi j'allais dessus, pour quelles raisons. Et toutes ces questions, je me les suis posées à travers des poèmes. Donc c'est un peu des poèmes questions, il n'y a pas de réponse en vrai. Je n'ai pas réussi à résoudre ce grand mystère. En tout cas, moi je ne suis pas encore arrivée à prendre connaissance de cette réponse. Et parfois, une fois que les livres sont publiés et que je fais des rencontres en librairie, dans des milieux scolaires, etc., que des personnes me posent des questions ou viennent me dire des choses sur mes livres, c'est là que je découvre un peu ce que j'ai écrit.
C'est-à-dire là, par exemple, pourquoi de la pornographie vous a intéressé, ce que vous en avez tiré. On va revenir aussi sur la position ambivalente que vous avez, à savoir à la fois de grand plaisir, mais aussi de culpabilité. Et puis d'ailleurs, la culpabilité, elle est première. C'est pas seulement de regarder des sites porno, de faire quelque chose de caché ou même peut-être de participer à une industrie qui vous semble inégalitaire. C'est aussi d'abord la procrastination. Vous l'avez dit, Rim Battal, vous allez sur des sites porno parce que vous n'arrivez pas à travailler.
Tout à fait. Et donc, écrire à partir de procrastination, c'est un peu désamorcer cette culpabilité-là. En revanche, la culpabilité qui est liée à la pornographie, elle vient pas de la sexualité en soi, mais ça vient vraiment de justement cette inégalité et cette exploitation qui est très forte dans le milieu, dans l'industrie pornographique. Et aussi parce que moi, je regarde ça avec mes yeux et mon corps et mon vécu, mon expérience de femme, et que je ne peux pas regarder sans me projeter dans les corps de ces femmes-là qui sont qui jouent, qui sont idéalisées, idolâtrées, humiliées dans ce cinéma
instrumentalisées aussi.
Instrumentalisées. Après, enfin, ça n'empêche pas la jouissance, ça n'empêche pas l'érotisme. Malheureusement, enfin, c'est tout ça est mélangé en même temps. En fait, dans le même temps, moi, je ne suis pas contre le porno. Je tiens juste à le dire tout de suite d'emblée, mais je suis contre cette exploitation-là. Et cette exploitation-là, elle est malheureusement pas propre à la pornographie. Elle est un peu partout, dans tous les milieux. Dès qu'il y a femmes qui sont impliquées, ou d'ailleurs d'autres minorités ou de personnes minorisées qui sont impliquées dans n'importe quelle industrie, mais à des degrés différents. Dans le pornographie, les curseurs sont un peu poussés au maximum, un peu partout. C'est ce qui nous permet de voir justement avec d'une manière un peu plus évidente justement le sexisme, le racisme, la transphobie, etc., qui sont propres à nos sociétés, malheureusement.
Vous l'avez dit, Rim Battal, tout peut être poétique. Et c'est vrai que j'ai posé cette question délibérément un peu naïve, de dire pour comment on peut faire de la poésie à partir de la pornographie, parce que finalement, la poésie est transgressive. Mais la pornographie, elle a quelque chose de sale, et la poésie est devenue quelque chose de très gracieux, de l'ordre de l'éthéré. Est-ce qu'il faut changer de définition de poésie, en fait, de la poésie?
Pour changer de définition, il faut qu'elle en ait une. Et franchement, personnellement, je ne saurais pas comment définir la poésie aujourd'hui.
Vous pourriez pas donner une définition là. Rimbatal, définissez la poésie.
Franchement, à part ce regard justement qui est posé sur les choses, en passant par la langue, parce que pour moi, elle est très liée à la langue. On peut toujours s'amuser à dire qu'un coucher de soleil est poétique, une lumière est poétique, une rencontre est poétique. Mais pour moi, ça ne suffit pas pour faire poésie. Il ne suffit pas d'exprimer des émotions pour faire poésie. Il y a aussi un travail avec la langue, un corps à corps avec la langue qui est très important et qui se situe dans poste ce regard-là. Une fois que le regard est posé, il reste le travail sur la langue. Mais à part ça, je ne saurais pas avancer, on avance en terrain miné, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a autant de poésie que de poètes et poétesses.
Et puis si tout peut être poétique, on peut se dire que rien n'est poétique au final. Vous voyez, ça ne lui donne pas une spécificité après.
Tout à fait, c'est pour ça que j'insiste sur la partie travailler sur la langue en fait. Je pense que je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié.
Mais vous savez quoi, Rimbatal, comme vous avez parlé effectivement du fait que tout était poétique, mais qu'après tout se situait dans ce travail sur la langue, ça va vous revenir et on reviendra aussi sur qu'est-ce que ça veut dire de faire poésie, que quelque chose fasse poésie. Je vous propose d'abord en fait de nous lire le premier poème de votre recueil qui vient de paraître, donc ce recueil qui s'intitule X et Xé. C'est à vous.
Elle s'appelle Jenny, Violetta, Stoya. Elles sont floues, on ne voit que leur viande. C'est un défi, disent-elles. La liberté totale, dit lui. Puis allongez-vous, rapprochez-vous. Embrassez-vous. Caresses sont ça, caresses sont si. Elles ont des corps de tous les jours, des corps dociles, reconnaissables parmi mille, des corps à modeler, des corps de vacances en Tunisie avec Thomas Cook. Gazelle, ont-ils appelé là-bas son corps all-inclusive. La caresse est rose, le téton est rose, les ongles fauves. Elle le suce à tour de rôle. Elles ne se le disputent pas, elles ont à manger tous les jours de ce pain-là. Son sexe est un sexe de tous les jours, un sexe de supermarché, sous le jean, derrière le chariot, un sexe de courir chercher le gamin à la maternelle, un sexe métropolitain. Sexe aussi long que mon poing fermé. Tu parles d'une bagarre. L'une a des bas, l'autre un body. Les sexes ouvrent leurs battants, porte de saloon écarlate. Les seins de la blonde divergent. L'anus de la brune est orné d'un rubis. Au loin, on entend des travaux. Un homme entre. Elles disent « Bonjour ». Elles sont polies à force d'être caressées. C'est un puma, si l'on en croit son t-shirt. Je caresse mon surmoi, dans le sens inverse du poil.
Rimbatal, merci pour cette lecture. C'est donc le premier poème qui ouvre votre recueil X et Xé. J'avais prévu de vous poser comme question pourquoi avoir choisi celui-ci, mais c'est moi qui l'ai choisi en fait parce qu'il ouvre votre recueil. Mais alors je vous posais une autre question, pourquoi avoir ouvert ce recueil avec ce poème-là, avec la présentation justement de ces femmes qu'on retrouve à la fin, Jenny, Violetta et Stoya?
Parce que je voulais dire leur nom, parce que je voulais les nommer, parce que je trouve que c'est important de nommer les femmes toujours, peu importe le milieu, peu importe le domaine, de dire leur nom et leur prénom. Malheureusement, dans l'industrie du porno, elles ont rarement des noms.
Leur vrai nom.
C'est ça, mais c'est des pseudos en tout cas, elles sont très connues. Il y a des grandes figures qui sont connues de tous, qui sont idolâtrées quasiment par leurs fans. Mais j'ai choisi celle-ci parce que j'ai presque grandi avec ces figures-là en fait. C'est notre génération. génération qui a eu accès à Internet sans le contrôle parental. Donc on a pu un peu naviguer à vue, sans préparation, sans être briefé, sans être éduqué à cela. Non seulement parce que c'était tabou, comme l'est la sexualité encore aujourd'hui, encore plus au Maroc où j'ai grandi, mais en vrai ici en France c'est pas très différent là-dessus, mais surtout parce qu'il y avait une totale méconnaissance de la part des adultes à ce moment-là de ce qui se passait sur Internet et de la pornographie sur Internet.
Mais de l'industrie porno elle-même, non, qui en fait découvrait aussi tout ce que proposait Internet à ce moment-là, de qui avait accès, comment on y donnait accès. Vous resituez ça très bien, Rim Battal, dans ce recueil, parce qu'il s'agit de 56 poèmes en vers libres et qui reflètent complètement, c'est-à-dire vous allez du terme je clique, j'entre, parce que dans les sites porno, il faut cliquer sur entrer. Voilà, vous dites que vous quittez des pages, vous parlez des catégories, donc vieille salope,
des hashtags,
des hashtags,
la navigation privée qu'on active pour avoir l'impression, l'illusion d'être l'anonymat et du secret.
Donc vous nous faites part en fait de tout ce cheminement-là. Comment ce milieu-là, en fait, les sites porno vous sont devenus familiers, mais même presque un terrain de jeu, pas seulement en fait de plaisir, mais aussi de créativité, parce que c'est des sites extrêmement, des images extrêmement formatées.
Oui, justement, mais en fait, c'est cette forme-là. En effet, c'est très formaté dans le porno, et ça l'est de moins en moins en poésie. Et donc, j'ai voulu un peu confronter les deux formes un peu qui sont très mouvantes, celle de la poésie aujourd'hui, quand on écrit en vers libre, en fait, on est dans une sorte d'océan de possibles et de possibilités infinies, peut-être quasi infinies. Je sais pas, peut-être que tout est fini, j'en sais rien, mais je m'égare. Alors que dans l'industrie du porno, tout est très codifié, tout est très, c'est des catégories très claires, très nettes. Il y en a tous les jours qui sont un petit peu inventées, mais je pense que tout a été inventé et dit et exploré dans la sexualité et par extension dans la pornographie.
Donc comment on tire de ce matériau-là tellement formaté une forme de déconstruction par la langue? À quel moment justement on revient à cette question-là de qu'est-ce qui fait poésie? C'est pas tant le matériau porno en fait, c'est le formatage d'images en fait que l'œil reconnaît, auquel on s'est familiarisé avec tel type de corps, tel type aussi de scénario. C'est toujours les mêmes scénarios. D'ailleurs vous avez beaucoup d'humour, vous en riez, c'est toujours la même chose finalement qu'on regarde dans les vidéos porno.
Oui, mais puis en fait, c'est même nos vies amoureuses et sexuelles correspondent et répondent à des schémas et à des scénarios aussi qui sont préétablis. La rencontre se passe selon certains codes, le nombre de rendez-vous, le bisou, puis on descend, on se touche comme ci, on se touche comme ça. C'est aussi, dans la deuxième partie du livre qui est intitulée « De rien bébé », dans un des textes, je dis « je veux sortir du script ». C'est aussi ce script-là, c'est pas uniquement le script du porno. Le porno, c'est juste une sorte de miroir, un des miroirs qui nous sont tendus, en fait, qui reflètent notre réalité, comment on s'aime, comment on désire, comment on érotise. Mais, comme je disais tout à l'heure, tous les curseurs sont poussés au maximum, le contraste est forcé. Et,
c'est presque
une caricature, en fait.
Oui, mais est-ce que ça reflète véritablement ou est-ce que ça modèle, façonne aussi nos désirs?
Je pense que c'est toujours forcément un dialogue. Donc ça les d'abord ça les reflète et puis ça les façonne parce que la fiction et la réalité sont toujours dans une sorte de dialogue permanent. La vie imite l'art, l'art imite la vie et ça se poursuit comme ça. Nos relations, nos rapports amoureux, en effet, notre manière d'aimer, d'être en couple est aussi a été façonnée par le cinéma, par la culture, par la chanson. Le porno n'y échappe pas.
Dans ces 56 poèmes, Rim Battal, est-ce que on entend le tout début de ce premier poème que vous avez lu, ça commence par « Elle s'appelle Jenny Violetta Estoya ». Votre dernier poème de XXX se finit avec un dernier poème donc qui commence de la même manière. Il y a un cheminement aussi. Est-ce que sur un sujet comme le porno, on est obligé à un moment donné de faire part d'un cheminement personnel par rapport à ça, justement sur ce dialogue entre l'image et notre désir, le fait que ce soit un reflet, mais aussi que ce soit une forme de formatage. Est-ce que vous l'avez conçu comme ça, votre recueil? Et d'ailleurs, de manière générale, ça se conçoit comment, un recueil de poésie?
Alors, pour celui-ci, en tout cas, comme pour d'autres de mes textes, comme L'eau du bain, par exemple, qui vient de sortir en poche, le même jour d'ailleurs que XXL, 8 février dernier, chez le Castor Astral, j'ai voulu me mouiller. J'ai eu envie de vraiment écrire, comme je le dis d'ailleurs dans le texte, comment on fait des cascades, comment on ferait une cascade dans le cinéma. J'ai voulu écrire avec mon corps, engager mon propre regard, prendre ce risque-là. Dans l'eau du bain, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de la part de la maison d'édition d'avoir voulu en fait publier les deux en même temps. C'est que en fait, les deux communiquent. Dans XXX, je parle de pornographie. Dans l'eau du bain, je parle de maternité. Dans l'eau du bain, j'ai écrit que il n'y a pas plus mère que la putain et plus putain que la mère. Et en fait, c'est le fait que ces deux livres se ressortent en même temps ou sortent en même temps matérialise ce vers-là. Et donc, dans les deux, j'ai vraiment voulu m'engager par mon corps pour en discuter, parce que c'est pas des sujets qui sont simples. À chaque fois qu'on s'en empare, on utilise des stratégies d'évitement. On parle pas de soi. On parle pas de soi dans le porno. On parle pas forcément.
Déjà, on dit peu quand on regarde du porno.
Oui, on le dit peu. Moi, j'ai voulu le dire très très tôt, très jeune. J'en ai discuté avec les copines, avec les amis, etc. Et maintenant, j'ai voulu le mettre également dans mon travail, parce que travailler, c'est ma vie. Ma vie, c'est travailler. Et je suis engagée en poésie comme dans une sorte de performance totale, je l'espère. Et c'est pour ça. Mais je sais pas si je pourrais le dire de manière plus juste que, justement, je l'ai écrit comme on ferait une cascade.
Rime Battle.
On vous imagine, hein.
Stuntman Mike de la poésie.
Vous parlez d'engagement, de poésie au quotidien, effectivement. Quand vous dites j'y mets mon corps, j'engage mon corps dans cette écriture, ça se traduit comment ? Parce que vous nous parliez de la langue, de travailler avec la langue. Et donc, justement, comment est-ce qu'on met son corps dans ce récit ?
J'ai l'air très belliqueuse comme ça, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais peut-être que j'ai un rapport à la vie un peu, à la poésie aussi un peu bagarreur. Donc en fait, cet engagement, il se traduit par n'éviter aucun sujet, par faire le choix et prendre la décision d'une sincérité absolue et totale en poésie. Ça ne veut pas dire que je raconte ma vie. Ma vie, c'est une chose. Et si je voulais raconter ma vie, j'aurais, je sais pas, ouvert une chaîne YouTube et peut-être que je gagnerais plus de sous aujourd'hui et que j'aurais plus de followers. Mais je suis trop bavarde, je suis désolée. Du coup, j'ai encore perdu le fil de mes pensées.
L'idée d'engager son corps dans cette écriture-là.
Oui. Et ben en fait, parce que j'engage mon regard, parce que je dis ce que je vois, je dis ce que je regarde, et ce que je regarde n'est pas facile à admettre. En fait, on le lit dans certains des textes. En fait, c'est pas évident de lire certains hashtags comme Harry, Sugar Daddy,
Exhibe entre copines,
exactement, Exhibe
entre copines, Gisèle 74 ans, vieille salope,
tout à fait,
voilà,
oui, mésange, rousse, l'adolescence sale. Enfin, c'est très très fort d'admettre et de dire qu'on regarde ça. Ça ne veut pas dire que c'est moi et que c'est mon identité et ma personne qui est dedans.
Non, mais vous vous exposez.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on vous expose à une forme de jugement.
Exact. Et ce jugement, je suis prête à l'assumer, je suis prête à passer à la barre. Mais simplement, si je suis jugée en tant que poétesse, en tant que personne qui écrit, en tant que femme qui crée.
Saleté de bourrique.
Il ne bouge pas d'un poil. Moi aussi, je ferais bien de me trotter si je ne veux pas être en retard à la gare. Il y a un instant, il piaffait, il hennissait, et le voilà qui refuse d'avancer. Flanquez-lui donc un vache coup sur les fesses. Plus fort. Eh ben, si on en faisait autant pour moi, ça ne traînerait pas. Comme il me fixe, de ses grands yeux qui pleurent sous la morsure des temps. Si je poursuivais mon chemin, qu'il ne me voit plus. Non, assez! Prenez-le par l'abri, détournez-lui la tête, qu'il ne me voit plus. Oh, c'est affreux.
« un extrait de la pièce radiophonique « Tous ceux qui tombent » de Samuel Beckett en 1959.
C'est une pièce que vous citez, Rim Battal, dans votre recueil. Alors, on y a entendu, là, dans cet extrait, Madame Hounet, qui est donc interprétée par Maryse Payet, qui est une femme, je cite, « pourrie de chagrin et de graisse et de douleur et de stérilité ». Il y a cette phrase, notamment, qu'on a entendue que vous citez, « Flanquez-lui donc un vache coup sur les fesses ». Plus fort. Pourquoi cet insert, cet appel, ce recours à Samuel Beckett à ce moment-là de votre recueil, dans ce recueil-là?
Parce que j'aime Beckett d'abord, et puis aussi parce que justement il y a ce corps de femme qui est engagé à la fois dans ce texte Beckett, dans la pornographie, dans ma poésie, et parce que cette culpabilité dont on a parlé tout à l'heure qui émerge en fait et qui affleure dès qu'on consomme entre guillemets de la pornographie, elle ressemble un peu à cette morsure des temps. Je cite aussi d'autres textes, je cite William Blake, je cite Griselidis Réal, des pentes, mais aussi des œuvres d'art, comme vous l'avez dit au début de l'émission, avec Cabanel, Laure Prouveau, Laurette Massan, qui sont aussi des artistes contemporaines.
Mais chez eux, par exemple, ça légitime d'une certaine manière la violence, la jouissance de la violence, presque comme si c'était acceptable dans ces arts-là. Quand on dit c'est du Samuel Beckett, on le légitime tout de suite. On dit ah bah oui, c'est beau, c'est magnifique. Si on dit c'est dans un porno, on va dire oui, bon, c'est indigne.
Oui, parce que ça dépend toujours de qui fait quoi, comment. C'est pour ça que c'est important de situer qui parle, à partir d'où on écrit, à partir d'où on crée, pour dire quoi. En effet, même aujourd'hui, on lit Sade ou même Bataille, et parfois on a des scènes qui sont beaucoup plus, qui pourraient être beaucoup plus choquantes que certains films porno. Ce qui est différent dans la pornographie, c'est que ce sont des corps qui sont vivants, qui sont là devant nous en train de se produire, de répondre à des commandes de scénarios. Et c'est aussi la ligne très très mince entre la vraie vie et le cinéma qui est intéressante dans la pornographie. C'est que c'est des personnes qui ne jouent pas seulement une scène, elles pratiquent réellement un acte sexuel. Est-ce qu'il y a jouissance ou pas, ça c'est une autre question, mais il y a vraiment pénétration, il y a vraiment éjaculation, il y a vraiment ces cris, il y a vraiment ces mouvements, ils existent, c'est pas de la simulation en fait.
Et puis vous citez aussi en ouverture de votre recueil un enseignant-chercheur, docteur Florian Voros, qui est spécialiste des porn studies, qui est auteur aussi de Désiré comme un homme, enquête sur les fantasmes et les masculinités. Et il dit ceci, c'est alors l'expérience du plaisir et surtout du plaisir ambivalent que procurent les représentations sexuelles politiquement incorrectes qu'il s'agit d'explorer. Le fait de voir des corps faire l'expérience du plaisir, d'être un corps faisant l'expérience du plaisir, constitue des moments du processus de production de connaissances critiques sur la pornographie que les chercheurs et les chercheuses nient aux dépens de la rigueur intellectuelle. Vous la comprenez, cette double ambivalence, hein, c'est-à-dire prendre du plaisir tout en s'en rendant coupable, mais aussi le fait de, pour bien penser le porno, c'est-à-dire pour avoir une rigueur intello, il faut en regarder en fait, il faut presque en jouir.
Mais c'est ça justement en fait, c'est pour ça, c'est un peu mon statement quand j'ai rencontré ce texte, ça m'a bouleversée vraiment, j'ai presque versé une petite larme en lisant Voros, parce que j'avais déjà commencé à travailler sur à produire en tout cas les premiers textes brouillons à ce stade-là, mais justement il m'a semblé important de faire l'inverse de ce que font en tout cas les chercheurs et chercheuses, c'est de ne pas nier. De ne pas nier justement cette jouissance éventuelle, cette expérience du plaisir. Et donc j'ai voulu proposer un peu une manière de parler de pornographie à travers le langage sensible qui est la poésie. Donc en admettant cette sensibilité-là, en admettant la possibilité du surgissement de la jouissance et du plaisir. C'est ça la différence qu'il y a entre un travail de recherche, un essai et mon recueil de poèmes. XXX.
Vous n'avez pas eu peur d'être moralisatrice ?
Si, un petit peu. À un moment, j'ai eu peur de d'être dans une d'écrire un texte à charge contre le porno, parce que dès lors qu'on prend le prisme féministe, qui est ma grille de lecture par la force des choses, j'ai pas voulu démolir, en fait. C'est pas mon intention de démolir la pornographie, mais je ne peux pas me défaire, en fait, de cette part de moi qui regarde avec un regard féministe. J'y peux rien, c'est trop tard, quoi. J'ai déconstruit mon regard, forcément ça transparaît dans le texte, mais oui, ouais, je ne veux pas être moralisatrice, ce n'est pas le but, mais je ne sais pas comment m'en défaire à part de le déclarer comme ça.
Et en même temps, comme vous exposez, de fait, comme vous dites que vous en regardez, comme vous rendez hommage, ça évite presque de tomber dans ce travers-là. Vous avez dit, Rim Battal, que vous faisiez appel à plusieurs références. On a parlé de Florian Vorros, on a parlé de Samuel Beckett, et vous avez cité Griselle d'Israël. Je vous propose d'entendre sa voix.
J'ai commencé à écrire peut-être toute petite, comme beaucoup d'enfants, sans penser à rien de particulier. Et j'avais tenu mon journal en prison, en Allemagne, en 1963. Un journal clandestin, j'écrivais des poèmes en allemand. Enfin, je me suis toujours un peu occupée avec la plume. Ça défoule, vous comprenez? Et ça empêche d'étouffer, de se replier sur soi-même. D'ailleurs, j'adore lire, avant tout. Je crois qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas vraiment beaucoup lu aussi. Mes collègues, contre toute attente, ont très bien pris ce livre. Pourquoi? Je crois savoir que c'est parce qu'il dit la vérité. Que peut-être tout le monde n'a pas le courage de dire, ni même de se raconter à soi-même. Mais finalement, ça fait du bien de voir la vérité écrite noir sur blanc. Parce que vous ne trichez plus, et finalement, ça vous soulage de pas toujours faire semblant que les choses ne sont pas ce qu'elles sont et que vous n'êtes pas ce que vous êtes.
Une archive de l'émission Synergie en 1992 sur France Inter avec la voix donc de l'écrivaine Griselle d'Israël.
Et donc vous citez Rim Battal, elle dit deux choses très intéressantes dans cette archive. Non seulement qu'elle a toujours écrit, ce qui est aussi votre cas, Rim Battal, mais elle dit aussi qu'elle dit la vérité. C'est-à-dire que de l'écrire noir sur blanc, non seulement ça soulage, mais ça soulage aussi le lecteur de le voir écrit. Est-ce que vous pensez faire œuvre de vérité justement dans ces tensions, comme vous dites, entre le problème d'être moral, le problème en même temps aussi de s'exposer, de trop en dire, de pas assez en dire?
Oui, parfois on dit aussi la vérité en mentant, en passant par la fiction. Donc je dis la vérité, mais je fais pas dans le documentaire. C'est une démarche qui est différente. Mais je vois très bien de quoi parle Griselle d'Israël. Après, bon, elle dit que ses collègues l'ont bien pris. Elle a de la chance parce que ce n'est pas toujours reçu de la même manière, la vérité. Parfois, elle est reçue avec du rejet. Pour l'instant, mon livre XXX vient de sortir. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner auprès de mes lecteurs et lectrices et auprès des collègues.
Mais est-ce que vous avez ressenti ou vécu du rejet dans le milieu de la poésie, si tant est qu'il y a un milieu de la poésie, à la fois parce que vous êtes jeune et aussi parce que vous êtes arrivée en traitant de sujets qui n'étaient peut-être pas traités de cette manière-là jusque-là. On vous a parlé de l'eau du bain, donc qui ressort en même temps que XXX, qui parle de la maternité, qui parle aussi du fait, par exemple, d'avoir accouché et d'uriner, et ça brûle en fait quand on urine après avoir accouché. Vous abordez des sujets comme ça, vous parlez de vos vacances, vous parlez de l'huile solaire, je l'ai cité. Est-ce que ça, vous l'avez vécu?
Oui, alors surtout tout début, quand j'ai commencé, je suis arrivée en France en 2013, j'ai publié mon premier livre en 2015, et là, je me suis vraiment heurtée à une sorte d'accueil très froid, glacial, alors que vraiment, je m'attendais à arriver chez des poètes et poétesses, donc chez les bisounours, et pas du tout, en fait.
Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous reprochait?
D'être trop jolie. On m'a souvent, oui, on m'a dit que je profitais de ma joliesse, je cite, pour publier, pour avoir des lecteurs et des lectrices.
Donc pas sur les thèmes ou sur ce que vous écriviez, mais plutôt sur vous, du coup.
C'est vraiment sur moi, en fait. C'est triste d'être à ce... Mais bon, en fait, ça, c'était vraiment au tout début. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de trouver ses semblables et que le fait de continuer à écrire et de persister, d'être déterminé dans sa façon d'écrire, dans ce qu'on a envie d'aborder comme sujet, etc. Parce que petit à petit, on construit une communauté. On parle pour des personnes pour qui on a d'autres n'ont pas forcément parlé jusque-là et qu'on agglomère petit à petit et qui nous suivent. Donc moi, petit à petit, à force d'insister, bon, j'ai eu la chance d'avoir été suivie par des maisons d'édition qui ont cru en moi, etc. et qui ont mis en valeur mon travail. Et puis petit à petit, j'ai vu des personnes qui se sont rapprochées de moi, qui ont commencé à me porter, à défendre mon travail avec moi, et ça c'est très précieux.
Et pourquoi, selon vous, vous avez été portée justement? Parce que vous incarniez quelque chose qui jusque-là n'avait pas été dit, et là on en revient du coup au thème plutôt qu'à votre personne, non?
Le thème et les personnes se mélangent parfois. Par exemple, dans mon cas, comme je suis marocaine, je viens d'un certain milieu, j'ai donc ce parcours de migration, bon, qui est différent de plein d'autres parcours, mais je me rends compte petit à petit que j'attire beaucoup de personnes qui sont racisées, qui sont femmes, qui sont féministes, de personnes queer aussi, parce que je me rends compte que ces personnes ne se sentaient pas forcément représentées par d'autres voix, par d'autres poètes et poétesses, qui donc en étant ce qu'elles sont et ce qu'ils sont, abordent des thématiques auxquelles ces personnes sont confrontées. Et donc voilà, moi je me rends compte que, sans forcément le vouloir, sans que ce soit une intention dès le départ, que je parle pour certaines personnes. Et comme d'autres poètes et poétesses ou auteurs, autrices ont parlé pour moi. Quand, je sais pas, j'ai rencontré les textes même de Virginie Despentes avec King Kong Theory, il y a plusieurs années de cela. Elle a parlé pour moi, Virginie Despentes, comme elle a parlé pour énormément de femmes et de jeunes femmes à cette époque-là, et encore aujourd'hui.
Alors, vous dites dans les quatrains de l'All Inclusive, dans les 6e et 17e quatrains, vous dites, dans le 6e, vous dites « Suis-je enfin poète ?» point d'interrogation, et dans le 17e, vous dites « Devenu poète ». Est-ce que vous vous sentez légitime quand je vous présente comme poétesse? D'ailleurs, j'ai dit poétesse, mais ça se trouve, vous préférez poète, avec un E. Est-ce que vous vous sentez bien à cette place-là? Est-ce que ça vous convient?
C'est carrément ma place. Mais j'ai travaillé pour qu'elle le soit, pour qu'elle le devienne, en fait. Dès le départ, évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a autant de poésie que de poètes et de poétesses. Et le rejet, c'est aussi traduit par ça. C'est que ce n'est pas de la poésie ce que tu fais, Rim Battal. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont permis, moi aussi, de croire en moi. Et puis, cette absence ou manque de légitimité, il nous accompagne. C'est quelque chose de propre à toutes les personnes qui font de l'art, qui écrivent, etc. Mais particulièrement des femmes. Et elle est venue le jour où Aurélie Olivier, donc, qui est poétesse, mais qui aussi organise des événements littéraires et des festivals, m'a commandé un texte pour le livre « Lettre aux jeunes poétesses » qui est paru chez L'Arche en 2021, il me semble, ou 2022. Et donc, le jour où elle m'a commandé cette lettre que j'étais censée adresser à des jeunes poétesses pour qu'elles puissent se sentir légitimes et écrire, etc., moi, j'étais encore empêtrée dans mes doutes et mes hésitations. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit « Je ne peux pas écrire une lettre pour les jeunes poétesses alors que toi-même, tu ne te sens pas légitime. Maintenant, tu le décides, tu fais un choix, en fait. » Et à partir de ce moment-là, je suis devenue poétesse et personne ne peut me l'enlever.
Poétesse. On décrit votre style comme une écriture directe, brève, incisive, aussi faite d'interjections, vous faites des ha-ha par exemple, avec des sortes d'inserts autobiographiques, comme dans ce recueil XXC où vous dites « je clique, je quitte, je pars ». Est-ce que ça vous convient comme définition de votre style, un style direct et incisif? Ou c'est un petit peu bateau en fait de dire ça, incisif?
Ça dépend comment on le dit, à qui on le dit. Moi, ça me correspond. Parce que c'est je me contrains énormément dans mon écriture, j'enlève beaucoup, j'essaye d'utiliser le moins de mots possible, mais qu'ils aient le plus de poids possible, qu'on puisse les lire de plusieurs manières différentes. Pour moi, un bon poème, c'est un poème qui nous percute tout de suite, mais qu'on peut relire et relire plus tard, un mois plus tard, des années plus tard, et qu'à chaque fois, ce poème exhale d'un sens nouveau ou qu'on n'aurait pas vu. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps à écrire ces petits textes et que je suis pas... Enfin, chaque personne fait ce qu'elle veut, mais moi, je suis pas très fan des textes trop longs qui, pour moi, comportent parfois un peu de bavardage.
Justement, vous travaillez comment, en fait, concrètement? Vous écrivez beaucoup d'un coup et vous tranchez juste après? Est-ce qu'après, vous faites tout un travail sur le bon mot, sur des synonymes, par exemple, en disant là, ça, c'est pas le bon mot, il va pas rester, il a pas assez de poids?
Exactement. Mais en fait, j'écris d'abord un petit brouillon, généralement court, et ensuite, je retravaille à partir de ça. Je commence à écrire sur mon téléphone, j'écris, je prends plein de notes, j'écris des textes courts, et ensuite, quand j'en ai suffisamment qui se correspondent, qui résonnent entre eux, je les transfère sur mon ordinateur, et c'est là que je commence le vrai travail de composition d'un recueil, en fait, que je commence à les penser comme un livre éventuel, en pensant l'architecture globale du manuscrit, mais aussi en retravaillant chaque texte à plusieurs reprises, en choisissant les mots, en les changeant, que ce soit pour des questions de justesse, de sens ou de musicalité aussi.
Et est-ce que vous pensez à vos anciens recueils en vous disant « je suis Rime Battal, je suis poétesse, j'incarne tel style, j'incarne telle voix », vous avez parlé de communauté tout à l'heure, ou en fait du fait de parler à des gens qui ne se lisent pas ailleurs que dans vos recueils. Est-ce que vous pensez à ça maintenant quand vous écrivez ?
Maintenant, oui.
À une image, quoi. Presque une marque.
À l'image, je ne sais pas si c'est vraiment une image, mais c'est plutôt une question de honorer en fait les personnes qui nous suivent, qui nous lisent. Mmh. Au début, j'écrivais et puis j'avais envie de publier, j'ai publié. Et puis petit à petit, quand j'ai commencé à être invitée à des festivals, à performer dans des lieux comme la Maison de la Poésie, à même aller représenter la France dans d'autres pays, au Luxembourg, en Suisse, etc. Là, j'ai commencé à me dire, il faut que ces personnes, que je sois digne de cette confiance-là, il faut que je sois digne de cette attente, parce qu'on me demande régulièrement quand est-ce que tu publies un nouveau, c'est bon, j'ai tout lu. C'est quelque chose qui est très important pour moi, de respecter la réception, de respecter le lectorat. Ça ne veut pas dire qu'on va leur servir la soupe que ces personnes attendent, ou qu'on imagine que ces personnes vont attendre, mais de faire au mieux, d'essayer de se surpasser. C'est en termes d'exigence d'écriture. Plutôt que de choix de thématique, je me verrais pas me forcer à écrire sur un sujet donné, à part si on me paye.
Et une dernière question, Rime Battal, parce que je suis intriguée. Vous parlez deux fois de La naissance de Vénus, le tableau de Cabanel. Vous en parlez dans L'eau du bain et vous en parlez là dans XXC. Qu'est-ce que vous avez avec ce tableau?
Mais je l'adore, il est trop beau. Mais en fait, j'ai justement, les deux livres, XX et L'eau du bain, j'ai commencé à les écrire en même temps, en fait.
Ah oui.
Aussi, c'était un moment de postpartum. Dans L'eau du bain, je parle aussi de masturbation, d'échec à
vous masturber.
Ouais, c'est ça. Et c'est à ce moment-là, j'étais en postpartum, je venais d'accoucher, donc j'étais enfermée un peu avec mon bébé dans mon quotidien de maman. Je voyais pas grand monde, mais j'essayais d'aller dans des musées. De temps en temps, quand le bébé le permettait dans son porte-bébé, et quand les musées disposaient de lieux pour changer les couches, etc. Je me souviens que j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps devant certains tableaux de Cabanel, mais aussi dans d'autres. Il y en a un que je cite aussi dans XXC de Jobst Harish, que j'ai aussi découvert à ce moment-là, et dont j'ai fait un poème. Et je pense que le postpartum est en état assez particulier, qui vraiment, toute la sensibilité est à fleur de peau, tout est exacerbé. Et donc, on est plus disposé à accueillir, à être ému par des œuvres d'art, en fait. Toutes les sensations, toutes les émotions sont, fois mille, quoi.
Merci beaucoup, Rime Battal. De vous, on peut donc lire XXC, mais aussi L'eau du bain, les deux aux éditions Le Castor Astral. J'en profite pour signaler que vous serez à la Maison de la Poésie le 15 mars avec un invité surprise, je n'en dis pas plus.
Dernière question, nous avons choisi deux chansons, une sur la pornographie, une autre sur la poésie. Laquelle souhaitez-vous écouter ? Pornographie ou poésie ?
Sur la pornographie, évidemment.
Pornographer's dream, he said. I knew what he meant, but it made me imagine what kind of a dream he would have that hadn't been spent. Would he still dream of
Un grand merci aussi à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez, Théa Corler et Manon de la salle réalisation, Louise André, prise de son Guillaume Fischeux. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. À demain, Nicolas.
À demain.